le journal de l'équipe et la montre. Poursuite de la grève dans les régies financières de la RDC, État et employeurs d'un côté et délégation syndicale des travailleurs de l'autre ne sont pas parvenus à un compromis. Pendant ces temps, on parle déjà des conséquences consécutives à cette situation. Conjugaison des efforts pour venir en aide aux refoulés congolais de l'Angola, au Kasaï occidental, la MONUC, les agences du système des Nations Unies et des ONG internationales sont fin prêts pour des raisons, pour des actions concrètes et immédiates en termes notamment des médicaments et autres intrants agricoles. Les choses doivent changer même dans les domaines du transport, c'est ce qu'affirme le ministre en charge de ces secteurs qui a lancé ce samedi à Kinshasa la campagne de sensibilisation des mesures de circulation routière. À toutes et à tous, bonjour. Malgré les rencontres tenues jusqu'ici pour trouver un compromis, rien n'y fait. La grève continue dans les régies financières de la RDC. Les travailleurs grévistes entendent cette fois mener les mouvements jusqu'à ce que l'État et l'employeur répondent de façon définitive et durable à leurs revendications. Pas de paiement des arriérés de la plus-value ou de la prime du quatrième trimestre 2006. Pas de reprise de travail, affirme-t-il. On écoute à ce sujet Tati Nsungani, président de la délégation syndicale nationale de l'OFIDA.
La reprise du travail ne peut se faire qu'à la seule condition du paiement de la totalité du bonus du quatrième trimestre 2006. Le comité de gestion a fait la proposition de payer le tiers du bonus, proposition que nous avons examinée ensemble, mais nous avons estimé, et en cela nous rejoignons la position de l'intersyndicale du Congo, que la proposition est insuffisante. Un tiers, c'est quand même rien, compte tenu de la durée qu'a prise la libération de cette quotité.
De l'autre côté, il y a des conséquences aux frontières, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués, vous tenez compte de ça?
Les pertes, ça concerne tout le monde, mais nous ne pouvons pas non plus arrêter ce mouvement, pour la simple et bonne raison que l'État fait la sourde oreille. Il ne veut pas aller dans le sens du règlement définitif de ce problème. L'État ne veut pas trouver des solutions durables. Le mouvement est général. Les pertes sont énormes. Il est temps qu'on puisse trouver des solutions. Lundi 16 juillet, nous allons poursuivre le mouvement parce que jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été trouvée. Je vais parler d'une solution définitive, pas de solution palliative.
Tati Nsungani, président de la délégation syndicale nationale de l'OFIDA. Pendant ce temps, les conséquences de la grève des agents de l'OFIDA commencent à se faire sentir un peu partout à travers les pays, car le mouvement touche la quasi-totalité des postes frontières. À Bukavu, par exemple, dans le sud Kivu, les opérateurs économiques sont sérieusement préoccupés par le fait que leurs camions de marchandises sont restés bloqués à la frontière. Ils craignent une rareté des produits sur les marchés avec comme corollaire la flambée des prix. Devant ces multiples menaces d'ordre économique et sociale, l'AFEC Sud Kivu appelle le gouvernement à trouver une solution rapide à ces mouvements de grève. Moudekereza Namegabe, président de l'AFEC Sud Kivu, est au micro de Michel Tirimwami.
Surtout ce qui nous dérange ici, c'est que nous dépendons des autres pays limitrophes. Ces chauffeurs qui viennent de ce pays, et supposons qu'ils ont des visas pour de 7 ou 6 jours, maintenant il a 6 jours, qu'est-ce qui va devenir? Ici nous demandons au pouvoir public de régulariser cette situation vite vite pour ne pas encore avoir des conséquences, sinon pour l'Est ici, au Sud Kivu spécial. Nous sommes enclavés, nous sommes approvisionnés dans des conditions très très difficiles. Vous ne pouvez pas les sentir, vous consommateurs aujourd'hui, mais je vous assure, dans 10 jours, dans un mois, vous allez commencer à les sentir parce qu'il y aura à rareté des produits. Ce que nous pouvons demander, si même la douane peut avoir pitié des opérateurs économiques, qui nous donnent nos camions qu'on puisse décharger dans nos dépôts et sceller, les garder en attendant qu'ils harmonisent pour régulariser.
Moudekereza Namegabe, président de la FEC Sud Kivu. Un véhicule, ou plutôt le non-paiement du fret d'un véhicule de la DGRAD au centre des malaises entre la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales et les parquets des grandes instances de Kalemi. Le parquet a décidé de la saisie conservatoire depuis une semaine du dit véhicule au motif que la DGRAD refuse de payer les frets à la compagnie aérienne Falcon Aviation qui a convoyé le véhicule de Kinshasa Kalemi. Les frais de transport et les dommages et intérêts sont évalués à 9 000 $ américains. Le président du tribunal des grandes instance, Luc Caposso, affirme que le chef du ressort des Gérard reconnaît la régularité de la créance, mais refuse de s'acquitter de l'obligation de payer les frais en renvoyant l'affaire à l'UCOP, l'unité de coordination des projets basée à Kinshasa, pour honorer la facture. Le chef du ressort de la DGRAD, Jacques Sangwa, explique les motifs de son refus au micro de François-Xavier Mibé.
Le véhicule de la DGRAD est venu au même titre que ceux de l'OFIDA et de la DGI. Ce transporteur exige assez qu'on lui paie son argent ici à Kalemi, plus les dommages et intérêts. Et le tribunal dit que s'il n'y a pas paiement, il y aura la vente publique de ces véhicules pour que les propriétaires rentrent dans ces droits. Moi, je n'ai pas fait le contrat avec les transporteurs, ni moi, la DGAS Kinshasa. Il semble que le paiement était conditionné par la réception de la LTA que j'avais accusé de réception. Je l'ai fait le 11 mai 2007 et j'ai donné ça au transporteur qui devait le présenter auprès de l'ICOP. Je m'étonne pourquoi il est venu se plaindre auprès du bénéficiaire. La DGAS n'est qu'un simple bénéficiaire. Si le transporteur est vraiment juste, il devra plutôt retirer sa plainte et aller la déposer à Kinshasa contre l'ICOP et non pas contre la DGRAD.
Jacques Sangwa, chef du ressort DGRAD, Kalemie, signalant que l'ICOP est l'organisme qui se charge de l'expédition des véhicules de service de l'État. La MONUC Nanga, les agences du système des Nations Unies et des ONG internationales envisagent des actions immédiates en faveur de 15 000 Congolais expulsés de l'Angola, sortis par les frontières des Chikapa et des Luisa. Constituées en cellules de crise, ces structures ont présenté ce samedi, hier donc, les étapes de leur intervention à l'autorité provinciale. Il sera question de l'évaluation de l'impact de l'expulsion et de l'aide à apporter à ces sinistrés. Déjà, les participants à la rencontre se préparent pour cette assistance. Le point avec vous, André Kambala, depuis Kananga.
C'est une assistance diversement composée. L'UNFPA dit à prêter de médicaments d'urgence et de médicaments pour femmes violées. L'OMS disponibilise deux kits de médicaments qui serviront 2000 personnes durant 3 mois. Caritas dispose de non-vivres. La FAO apporte son aide en intrants agricoles. Toute cette assistance arrivera à destination après l'évaluation de l'impact de la deuxième vague d'expulsion. L'information a été portée à l'assistance par Véronica Mboutia de la section humanitaire de la MONU Kananga. Elle a précisé que les localités visées sont celles d'Nsumbula, Kamako Kabungu dans le territoire de Chikapa et Lombondombi Mbangu dans le territoire de Luisa. Le gouverneur de province ad intérim qui a salué l'initiative a informé l'assistance du nombre croissant des expulsés. Les statistiques de vendredi indiquent 15 000 personnes. Il a aussi présenté à l'assistance la demande des expulsés formulée à la délégation des ministres. Il s'agit de moyens de transport pour ramener dans leur province les Congolais expulsés qui désireraient aller chez eux. Une demande qui, selon l'autorité provinciale, peut trouver écho favorable au sein des agences du système des Nations Unies. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Par ailleurs, un convoi de 514 rapatriés congolais venus de la Tanzanie est arrivé vendredi au port de Mushimba, près de Baraka, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Ces rapatriés regagnent le pays 10 ans après avoir fui les affrontements entre différents groupes armés dans ces territoires. Il s'agit d'un deuxième convoi enregistré dans une semaine depuis 4 mois par les ACR à Baraka. Selon les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, ces rythmes de deux convois par semaine pourraient être maintenus pendant toute la période des grandes vacances. Plus des précisions avec Fiston Goma Mayabala qui nous appelle depuis Baraka.
Près de la moitié des rapatriés arrivés ce vendredi sont des écoliers et des élèves scolarisés. Certains ont déclaré que leurs parents attendaient la fermeture des classes en Tanzanie et la période de la récolte avant de se porter candidat au rapatriement volontaire. Selon le HCR Baraka, le rythme des convois avait été réduit à un convoi par semaine ou à un convoi toutes les 2 semaines depuis le mois de mars dernier. Pour faciliter leur accès aux soins de santé, le HCR a remis au mois de juin dernier une dizaine de structures sanitaires comprenant des centres de santé et des hôpitaux construits, réhabilités et équipés en matériel sanitaire aux autorités locales. Le responsable du HCR à Baraka, Magateki, a indiqué que cette assistance s'ajoute à l'appui dans les secteurs de l'éducation déjà apportés aux écoliers et aux élèves scolarisés rapatriés. Rappelons que depuis le début de l'opération en octobre 2005, le HCR a dépassé les seuils de 32 000 personnes déjà rapatriées dans les territoires d'Ouvira et de Fizi. De Baraka, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, 2 de 4 militaires FRDC enlevés et tenus en otage depuis le mercredi de la semaine passée par des FDLR ont été relâchés jeudi dans le village de Bouramba à environ 40 km au nord-est de Kiwanja, en territoire de Rutshuru. Selon un officier de la 8e région militaire, les 2 autres éléments FRDC seraient toujours en main des FDLR. Bernardin Nyang.
Les 4 militaires FRDC avaient été pris en otage la semaine dernière lorsque l'ambulance qui les amenait de Goma à Nyamilima pour récupérer le corps d'un militaire décédé suite à une maladie est tombée dans l'embuscade des FDLR. L'ambulance avait été brûlée par les assaillants. Selon des sources militaires, la libération des deux de ces militaires a été obtenue grâce à la médiation des prêtres catholiques et du groupement Binza qui sont restés injoignables, tout comme le commandement de la 8e région militaire pour d'autres détails. Pour l'heure, les deux autres militaires FARDC seraient toujours détenus par les ravisseurs qui, selon un officier FARDC, réclameraient la libération des deux de leurs camarades capturés par la brigade Bravo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Lancement hier à Kinshasa de la campagne de vulgarisation des mesures de circulation routière prises par le ministère des Transports et Voies de Communication. Pendant 10 jours, des panneaux mobiles vont circuler à travers les points chauds de Kinshasa. Ces panneaux informeront la population et les conducteurs des règles de circulation dans les transports en commun. Pour le ministre des Transports qui a lancé cette vulgarisation, cette campagne vise à prévenir la population avant des mesures coercitives qui seront prises à l'égard des contrevenants. Rémi Henri Kouseyo Gatanga, ministre des Transports et Voies de Communication, est au micro de René Capita.
Comme nous devons remettre le tout en ordre, il faudra que nous puissions passer par cette campagne de sensibilisation en telle enseigne que des mesures coercitives que nous allons commencer à prendre pour que la population ne puisse pas dire que nous sommes là pour les tracasser. C'est comme ça que nous commençons par cette campagne de sensibilisation afin que la population congolaise sache que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère d'état de droit. Et nous faisons tout pour humaniser les transports chez nous. Car nous insistons à ce que les gens ne puissent pas se mettre deux devant, quatre derrière. C'est dans le cadre de la sécurisation de la vie des personnes humaines. Et après, maintenant, il y aura des mesures coercitives. Ce qui signifie que nous faisons tout en ce qu'au niveau de la capitale ici et à travers l'intérieur du pays, que nous puissions envoyer les moyens conséquents, les moyens de transport, que ce soit pour les taxibus, afin que le peuple congolais se sente à l'aise.
Rémi Henri Kouseyo Gatanga, ministre des Transports et Voies de Communication. Sachez que cette campagne lancée par le ministre des Transports et Voies de Communication est conjointement menée par le ministère des Transports, l'Hôtel des Villes et le Centre National de Prévention Routière. Dans le Maniema, le voyage Kindu-Kinshasa par avion devient un casse-tête. Des encombrements et des arrangements frisants des combines et autres trafics d'influence sont observés à l'aéroport de Kindu pendant les embarcations des vols de CAA, la seule compagnie aérienne qui reste en opération sur cette ligne depuis plus d'un mois. Selon les responsables de la compagnie aérienne africaine CAA, qui confirment la pertinence du problème, c'est possible qu'un deuxième vol par semaine voie le jour d'ici là pour essayer de contourner cette difficulté. Cosmas Swedi Mwanaulu est au micro de Gabriel Ouamenia.
Au niveau de Kindu, nous avons d'abord un premier problème, c'est-à-dire qu'il nous est toujours difficile d'avoir un vol sec parce qu'il n'y a pas de carburant à Kindu. Voilà pourquoi on a organisé un vol où nous sommes combinés avec Kisangani. C'est au niveau de Kisangani où l'avion est ravitaillé en fuel. Bon, maintenant, comme nous sommes pendant la haute saison et que nous avons les monopoles à Kindu, il nous faut un deuxième vol. La direction commerciale est en train d'étudier comment bouleverser l'horaire pour qu'on puisse attribuer à Kindu un second vol. On doit voir si on doit le combiner soit avec Goma, parce que la demande actuelle, c'est les larges. Les gens souhaitent avoir un régulier sur la ligne Kindu-Goma, Goma-Kindu, comme il y a aussi beaucoup de passagers sur la ligne de Kinshasa. Voilà.
À quand on peut espérer ce vol?
Bon, je ne peux pas vous donner des précisions parce que moi je ne suis pas de la direction commerciale. La décision ne dépendra pas de moi. Ils sont aussi en train d'observer. Est-ce que le flux de passagers qu'il y a à Kindu, c'est juste pour quelques temps ou bien ça sera régulier?
Signalons qu'un homme a été blessé après qu'il ait cassé une vitre par un coup de poing lors de l'embarquement de son épouse qu'il croyait débarquer, signe qu'il n'est pas facile, dans les temps qui courent en tout cas, d'obtenir une place à bord d'un avion desservant la ligne Kindu-Kinshasa. Enfin, province orientale, augmentation du taux de consultation prénatale dans le district sanitaire de Dingila. Nous sommes à plus de 500 km au nord de Kisangani. Ce taux est passé de 35% au premier trimestre de l'année 2006 à 77% pour les trois premiers mois de cette année. C'est ce qui ressort du rapport de la division provinciale du plan, rapport présenté jeudi lors de la clôture des travaux de la revue semestrielle du programme de coopération RDC-UNICEF. À la base de cette amélioration, un nouveau projet de l'UNICEF de plus $1,300 américains en application dans ce district. Docteur Francis Bailongandi, médecin sein du district sanitaire de Dingila, explique au micro de Dorcas Kankou.
Il y a des incitatifs qu'on a mis dans les consultations prénatales. Notamment, on a donné à peu près 80 626 moustiquaires imprégnés qui sont distribués à ces femmes lors des consultations prénatales à 250 francs congolais la pièce. Avant la guerre, pratiquement, il n'y avait pas de matelas. C'est pour la première fois que nos structures ont des matelas. Il y a même des médicaments aussi qu'on distribue gratuitement pendant ces consultations prénatales, notamment les fansidars contre le paludisme. Il reste à faire beaucoup de choses, notamment on peut cibler l'aspect réhabilitation. Pour cette année, on est en train de réhabiliter 20 structures où on aura à réparer la toiture, à rafraîchir les murs, à mettre des plafonds. Il reste encore 46 structures à réhabiliter. Donc, nous osons croire que d'autres appuis, si pas avec l'UNICEF, même d'autres partenaires, pourront nous aider à ce qu'on arrive à couvrir les 66 autres.